Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Maïder Gérard, Marguerite Caton, Corentin Mansoir, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Clément Daté. Deuxième volet de notre série consacrée au Rwanda, 25 ans après le génocide. Après avoir parlé de mémoire et de politique mémorielle, parlons de politique tout court. Le front patriotique du Rwanda, la modernisation à marche forcée, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Le président Paul Kagame nous a donné son soutien. Il veut que tout le monde, tous les Rwandais soient les mêmes et que tous les Rwandais, le Rwanda soit un pays de dignité.
J'ai osé critiquer et questionner le gouvernement, le FPR, le parti au pouvoir. Et c'est pour ça que les Rwandais préfèrent le silence, n'osent pas parler, parce que quiconque ose s'exprimer dans ce pays paie un certain prix.
En Afrique, personne n'est populaire avec son peuple. Si vous l'êtes, vous êtes un dictateur. Être populaire, c'est donc une chasse gardée des pays développés. Les autres, quand ils sont populaires, ce sont des dictateurs. C'est ainsi que les médias voient les choses, et c'est comme ça.
On entendait à l'instant Paul Kagame lui-même qui revendiquait le droit d'être populaire. On entendait également Diane Rwigara, opposante politique, qui avait été empêchée de se présenter à la présidentielle de 2017 et puis emprisonnée avant d'être libérée et enfin acquittée, qui dénonçait elle en septembre 2017 le manque de liberté. 25 ans après le génocide qui avait laissé le pays exsangue et traumatisé, le Rwanda s'affiche aujourd'hui comme l'un des pays les plus modernes et développés de la région. Le niveau de corruption y est relativement faible, les catégories ethniques ont disparu, le Parlement affiche un nombre de femmes record, la jeunesse est entreprenante, connectée, et le pays s'affiche comme un pionnier de l'écotourisme. Pour beaucoup de pays du continent, ce Rwanda est devenu une sorte de modèle, mais un modèle qui a toutefois ses limites, car si les réussites du Rwanda sont incontestables, le gouvernement est critiqué pour ses penchants autoritaires, l'absence d'opposition et le manque de liberté. La gouvernance rwandaise, qui semble avoir permis au pays de se relever, serait-elle également son talon d'Achille ? 25 ans après, quel bilan des politiques de reconstruction menées par le gouvernement ? Le front patriotique rwandais a-t-il sacrifié la démocratie sur l'autel du développement ? Et puis ce modèle rwandais saura-t-il perdurer au-delà de son leader Paul Kagame ? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous en plateau. Jean-Paul Kimonio, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Jean-Paul Kimonio. Vous êtes politologue rwandais, chercheur, conseiller auprès de la présidence, auprès de Paul Kagame, et puis auteur d'un ouvrage, Rwanda demain, une longue marche vers la transformation, qui était paru chez Cartala en 2017. À vos côtés, Benjamin Chimoudi, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes politologue, spécialiste du Rwanda et puis un chercheur à l'université de Cambridge. On va commencer avec la question, la première qui fâche et qu'on va avoir le temps peut-être de décrypter un peu pendant toute cette émission, celle de la démocratie. Jean-Paul Kimonio, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, 25 ans après le génocide, le Rwanda est un régime démocratique ? Est-ce qu'il répond, disons, aux principaux critères démocratiques en termes de séparation du pouvoir, de multipartisme, d'alternance, de liberté d'expression ? Ou est-ce que finalement, l'efficacité économique s'est faite au prix de certaines largesses avec ses principes démocratiques, Jean-Paul Kimonio ? Et vous l'assumez ?
Oui, je pense qu'il faudrait d'abord peut-être retourner à la proposition, en fait. Parce que ce que vous semblez dire, que il y a eu un échange entre la démocratie et le développement. Et maintenant, il faut aussi voir un petit peu comment est-ce qu'on arrive à ce développement-là. Et pour arriver à ce développement-là, il y a un certain nombre de choses qui sont passées dans le pays, et notamment une certaine limitation d'un certain nombre de droits, notamment droit d'assemblée ou alors droit à l'expression, pour le bien de la cohésion sociale, la cohésion nationale. Il faut voir d'où vient le Rwanda. Et pour que le Rwanda puisse faire ce retournement-là dont vous avez parlé dans votre présentation, pour que le Rwanda arrive à ce niveau de développement et finalement dépasser les tensions les plus vives qu'il y avait dans le pays, il fallait passer par un certain nombre d'étapes. Et parmi ces étapes-là, c'était la recherche de la cohésion nationale et de l'unité nationale à tout prix. Et finalement, quand je dis retourner à la proposition, ça veut dire que finalement, c'est certaines limites. Mais limites qui ont été... D'abord, faut voir d'où vient le système et comment l'idée d'apporter ces limites-là sont venues. C'est venu à travers un processus de consultation extensif avec les différentes forces politiques du pays et qui finalement ont décidé d'avoir une certaine un système avec un certain nombre de caractéristiques. Et notamment, une diminution... de la liberté d'expression et une diminution de la liberté d'association. Mais c'est fait exprès et c'est inscrit dans la Constitution. Alors, ce n'est pas le développement contre démocratie libérale que je dirais, c'est plutôt unité nationale comme condition au développement. Et ça, ça fait un peu référence un petit peu au modèle d'Asie de l'Est, ce qu'on appelle les États développementalistes, qui effectivement essaient d'apporter, d'avoir une cohésion nationale pour le développement. On a fait l'expérience de l'inverse. On a fait l'expérience de la démocratie, ou alors d'une libération démocratique, à deux périodes, entre 1957 et 1963.
Période de violence.
Qui se sont terminées par des violences massives. Et l'autre épisode, c'est entre 91 et 94, qui s'est terminé par le génocide. Donc, et c'est ce qui a été dit dans ces réunions-là qui ont mis en place la Constitution, c'est que...
Donc, vous ne voulez pas réitérer. Donc, cette expérience démocratique, elle vous a servi de leçon, et donc, il n'est pas question de réitérer. Et donc, par exemple, la question du multipartisme aujourd'hui n'est pas une question. Et ce multipartisme qu'on voit aujourd'hui au Rwanda est un multipartisme de façade.
Non, c'est pas un multipartisme de façade. C'est un multipartisme particulier. C'est un multipartisme qui compte sur la collaboration des forces politiques plutôt que la confrontation. C'est ce qu'on appelle la démocratie consensuelle, qui bien sûr a ses limites, mais limites qui sont tout à fait assumées, comme vous l'avez dit.
Benjamin Chemouni, sur la question de la démocratie au Rwanda.
Bon, je suis pas exactement sûr que je rejoindrai Jean-Paul peut-être sur en fait la question du multiparti. Je pense en effet, parfois les partis au Rwanda ont été qualifiés de partis satellites, par exemple. Par contre, je rejoins complètement.
Je rappelle juste pour les auditeurs qu'aujourd'hui le FPR gouverne dans une coalition. Il y a d'autres partis officiellement. Je crois qu'ils sont une demi-douzaine.
Tout à fait.
Mais qu'effectivement le FPR domine le paysage politique.
Et par la Constitution, le FPR ne peut avoir que 50% maximum des sièges, par exemple, au Parlement, et même les portefeuilles ministériels, je crois, reviennent au FPR que à hauteur de 50%. Cependant, le FPR, de façon informelle, a quand même la possibilité, si je puis dire, de discipliner ses partis. Par contre, là où je rejoins Jean-Paul Kimonio, c'est vrai qu'il faut comprendre d'où le Rwanda vient, et j'ai envie de dire, tout simplement, l'histoire du génocide, de voir toutes ces forces centrifuges dans la société rwandaise qui ont été utilisées pour monter des groupes contre les autres. Est-ce que, alors qu'il y a beaucoup de traumatismes, qu'il y a beaucoup, en fait, peut-être de haine passée aussi qui sont là, est-ce responsable de, d'un coup, libéraliser un espace politique? Je n'en suis pas sûr non plus. C'est pas pour autant que les droits de l'homme ne doivent pas être respectés, mais il faut aussi, je pense, bien garder en tête le contexte.
Jean-Paul Kimonio, sur cette question du multipartisme, je le disais, le FPR gouverne dans une coalition. De quelle liberté, de quelle marge de manœuvre jouissent justement ces différents partis? Est-ce que les parlementaires des autres partis ont la possibilité d'être en désaccord tout simplement avec le FPR? Ça n'apparaît pas très clairement dans la scène parlementaire.
Oui, en fait, la Constitution institue un système de démocratie de consensus, en fait. Je pense que ça répond un petit peu à votre question. À savoir que les forces politiques sont appelées ou invitées à chercher le consensus dans la façon de fonctionner. Mais maintenant, il y a certaines instances dans lesquelles ces forces politiques-là peuvent débattre de leurs différences et souvent même négocier.
Comme le forum des partis politiques.
Le forum des partis politiques.
Et pourquoi ça ne se fait pas dans le Parlement?
Bon, c'est le système qui...
Parce que le forum des partis politiques, pardon, c'est à huis clos que ça se passe.
Oui, c'est à huis clos, oui.
Disons les choses.
Oui, oui. Mais c'est le système que le pays s'est choisi, et d'autre part aussi, comme je vous dis, si l'objectif ultime des nouvelles institutions rwandaises qui ont été mises en place à partir de 2003, c'est la préservation ou alors la reconstruction de l'unité nationale et de la cohésion sociale, le spectacle de députés qui se lanceraient des insultes à la tête, qui feraient du populisme en levant telle revendication ou telle revendication là, c'est ce que le système politique en place ne veut pas ou essaye
de... Ça s'appelle la démocratie.
Mais non, c'est ça la question de la démocratie. Est-ce que la démocratie doit être simplement...
Je ne dis pas que c'est simplement ça, mais ça fait partie du spectacle, je veux dire. Non, enfin, ce spectacle fait partie...
Mais d'une certaine démocratie, ce qu'on appelle démocratie libérale, ce qu'on appelle démocratie de confrontation. Mmh. Il y a d'autres types de démocratie. Et puis maintenant...
Comment est-ce que vous qualifieriez celle, la démocratie rwandaise?
Ah, elle-même se qualifie de démocratie participative. À savoir que dans la démocratie participative, en fait, les corps intermédiaires sont l'importance des corps intermédiaires, comme les partis politiques en particulier, sont limitées et avec une forte focalisation sur les populations elles-mêmes, notamment leurs besoins et ce qu'elles expriment. Donc finalement, quand on pose la question par rapport aux Rwandais, il y a des sondages qui ont été faits, la plupart des Rwandais s'estiment assez satisfaits de leur situation. Mmh. Mais maintenant, au-delà de cela, quand on parle de démocratie, je pense qu'il faut prendre en considération le point peut-être le plus important, quel que soit le type de démocratie dont on parle, c'est la question de la légitimité politique. Voilà. La légitimité politique qui se voit à travers d'autres voies que les voies habituelles de la démocratie libérale. Je vais vous donner un exemple très précis. En 1994, il y avait environ 2 millions de réfugiés. En 1996, environ 800 000 sont rentrés de force. Et je dirais qu'en 2000, c'était peut-être 1 200 000 qui étaient rentrés. Mais entre 2000 et 2017 ou 2018, presque l'entièreté des réfugiés sont rentrés au Rwanda. Mmh. Et ces réfugiés-là sont des réfugiés du génocide, entre guillemets. Mmh. Et ils sont rentrés à un moment où le pays, les Gachacha battaient leur plein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces réfugiés-là...
Les Gachacha, c'était les tribunaux.
Les tribunaux communautaires, qui étaient quand même des tribunaux. Oui. Et donc, ce qui fait que cette masse de réfugiés sont rentrés au Rwanda entre 2000 et 2018, je dirais, au moment où le pays entrait dans des situations assez difficiles, notamment avec les Gachacha. Mmh. Mais ces populations ont choisi librement de rentrer au Rwanda. Et ces populations étaient plutôt associées aux gens qui ont commis le génocide. Et pourquoi est-ce qu'elles ont fait ça? Et comment ça se passe? Ça se passe que les différentes communautés de réfugiés envoient des délégations dans le pays, font un tour, regardent, parlent à leurs parents et tout, et reviennent et informent leur communauté. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que entre 2000 et 2018, presque l'entièreté des réfugiés rwandais sont rentrés dans le pays. Voilà.
Benjamin Chimouni, Jean-Paul Kimonio a évoqué la question de la légitimité qui est évidemment centrale. Sur quoi se fonde cette légitimité? Effectivement, quand on regarde un peu les processus électoraux ces dernières années, on voit que on est quasiment, en tout cas, les résultats sont extrêmement favorables au FPR et à Paul Kagame. Si on prend par exemple l'élection présidentielle, c'était presque 99% des voix pour Kagame. Si on regarde même législative, c'était aux alentours de 74%. La réforme constitutionnelle qui avait été adoptée par référendum est passée très très large. C'était, je ne sais plus, 98 aussi à peu près. Donc on voit qu'effectivement, les gens semblent voter. Alors je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ces scrutins sont parfaitement démocratiques, j'en sais rien. Mais en tout cas, il semble que ce qui apparaît dans les urnes, c'est qu'effectivement, on considère que ce pouvoir est légitime. Qu'est-ce qui fait sa légitimité? Et qu'est-ce qui fait sa légitimité depuis si longtemps?
Alors, je pense qu'en fait, sur la question de légitimité, c'est vrai qu'il faut dépasser cette de voir en fait la démocratie ou le manque de démocratie au Rwanda comme une question de légitimité. En fait, je pense que le régime même à Kigali va bien au-delà de ça et ne cherche pas nécessairement à baser sa légitimité sur les urnes, mais plutôt en fait sur sa capacité de fournir à des habitants au Rwanda de la sécurité et du développement. Et c'est-à-dire qu'il faut voir dans une société où tout le monde, que ça soit Hutu, Tutsi, tout le monde a vu la mort de près, d'un coup avoir un régime qui permet de garder une stabilité pour 20 ans avec, malgré des problèmes, mais quand même un développement qui est là, qui est présent, et la démonstration d'une élite politique très clairement qui fait des efforts dans ce sens-là, je pense que la légitimité, elle vient de là, et pas nécessairement en fait des urnes, etc. Bon, les 99%, c'est aussi un processus très surveillé, donc je pense pas que l'indicateur de légitimité soit là. Après, ce qu'il faut se dire, c'est vrai que c'est quand même une société très contrôlée où l'espace pour les médias est assez restreint. Donc on n'a pas une vision très claire de est-ce que le régime actuel est légitime ou pas. On n'a pas vraiment d'indicateur, j'ai envie de dire, direct. Cependant, c'est vrai que les efforts sont là, et je pense encore que, au vu de l'apocalypse récente qui a été le génocide, au moins le régime essaye en fait vraiment de construire cette légitimité, mais par le développement plus que, vous voyez, par un exercice électoraliste, si je puis dire.
On va revenir justement sur le comment est-ce qu'on s'y est pris justement pour développer le pays. Mais d'abord, revenons justement peut-être un tout petit peu avant le génocide pour comprendre peut-être le projet politique du Front patriotique rwandais. Jean-Paul Kimo. Pour comprendre tout cela, la création, c'est les années 80, c'est 86-87, les choses se passent du côté de l'Ouganda, alors que Yoweri Museveni, qui est toujours en fonction d'ailleurs, vient tout juste de prendre le pouvoir, avec l'aide d'une jeune génération de Tutsis, parmi lesquels précisément se trouve Paul Kagame. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment prend forme ce FPR et quel est au départ, donc on est avant le génocide, le projet politique?
Alors
quelque chose que vous développez beaucoup dans votre ouvrage.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est une question qui est assez mal connue. Un peu les origines du FPR et ses origines idéologiques notamment. Le FPR, en fait, est le fruit d'un processus qui date de 40 ans et qui a commencé par l'expulsion de centaines de milliers de Tutsis rwandais au moment de la révolution de 59 au Rwanda. Et ces réfugiés se sont installés dans les différents pays limitrophes du Rwanda et étaient en nombre important, plusieurs centaines de milliers de personnes. Et ces personnes, d'une part. D'autre part aussi maintenant, il faut voir aussi que ce qui s'est passé au Rwanda a été présenté comme une espèce de révolution millénariste et que il n'était plus question que ces réfugiés puissent rentrer chez eux. Donc ils étaient bannis totalement. Et ces réfugiés-là ont vécu pendant longtemps, et une seconde génération de réfugiés a grandi. Et ces gens-là, au bout d'un moment, étaient bloqués, ont vu leur situation bloquée, que ce soit au Burundi, que ce soit en Ouganda ou au Zaïre, qui était le principal.
Donc ils ont décidé d'organiser le retour.
Ils ont décidé, pas d'organiser d'abord, de se mobiliser pour le retour et tout ça. Et il y a une conjonction historique particulière, c'est la création d'un noyau militaire rwandais au sein de l'armée ougandaise. Et donc, c'est la jonction de ces deux choses-là, donc une espèce de mobilisation pour le retour au Rwanda, plus la création de ce noyau militaire au sein de la NRA ougandaise, qui finalement a créé le FPR.
Avec au départ évidemment donc une démarche militaire, puisque l'objectif c'est tout simplement de faire tomber le régime rwandais, mais sur la vision politique, sur le projet politique du FPR. La devise du FPR, c'est unité, démocratie, développement. On parle aujourd'hui de cette question de la modernisation. Quelle était justement l'importance de cette question du développement au début du projet politique? Il y a évidemment l'aspect militaire, mais mettons-le de côté pour le moment. La question du développement.
L'aspect militaire n'était qu'un moyen. Un moyen pour une fin. Faut voir que le FPR, dès ses débuts, a eu comme projet politique la transformation du Rwanda. La transformation socio-économique, mais la transformation de façon générale du Rwanda. Faut comprendre pourquoi. Ces réfugiés-là étaient des Tutsis. Le Rwanda, à l'époque, était dominé par un régime Hutu, et il y avait une idéologie qui faisait que le Rwanda était le pays des Hutus. Et donc, le retour de centaines de milliers de réfugiés était inconcevable dans la psyché politique de l'époque au Rwanda. Maintenant, pour forcer leur retour, parce que c'est ce dont il s'agit, forcer leur retour et faire en sorte que ce retour-là puisse fonctionner, le FPR devait transformer radicalement la société, changer l'identité politique du pays, d'une part, et d'autre part aussi, changer aussi les structures économiques et sociales du pays. Parce que, selon son analyse, il disait que le sectarisme ethnique exacerbé qu'il y avait au Rwanda était dû notamment aussi à un problème d'extrême pauvreté, de manque de ressources. Et que si on devait arriver à une société nouvelle, entre guillemets, qui ferait plutôt basée sur les citoyens rwandais que sur un Hutu, un Tutsi ou un Twa, il fallait transformer aussi les structures économiques et sociales du pays. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, mais bon, c'est peut-être ce qui s'est passé, c'est que le FPR a répondu au génocide avec une mentalité transformatrice.
La transformation au cœur du projet politique du FPR, c'est d'ailleurs pour ça que vous l'avez choisi comme sous-titre, une longue marche vers la transformation. Mais quelle transformation, Benjamin Chémouni, et quelle idéologie derrière, effectivement, le Front Patriotique Rwandais, parce qu'il y a mille manières de transformer les choses, mais quelle idéologie est sous-tendue derrière?
Pour compléter ce que disait Jean-Paul Kimonio, c'est vrai, voilà, il y avait vraiment cette idée de développement, en effet, dans l'idéologie du FPR, mais je pense que celle-ci s'ancre aussi dans vraiment une idéalisation du Rwanda, qui vient en partie de cette mobilisation de la diaspora, d'essayer de garder la flamme du souvenir du Rwanda où en effet les parents se sont fait chasser notamment autour de la période de la décolonisation. Et je pense que le développement a vraiment aussi ce moyen pour restaurer la dignité du Rwanda, parce qu'une autre idéologie forte du FPR, c'est vraiment une idéologie anticoloniale, anti-impérialiste. Et c'est vrai qu'au Rwanda, on voit ça, par exemple, dans les champs de mobilisation politique du FPR, que l'arrivée des colons à la fin du 19e, jusqu'à la chute du régime de Habyarimana, c'est un peu un siècle de honte pour le Rwanda. Et la mission du FPR, quelque part, est de restaurer le Rwanda dans ce statut de dignité qu'il n'aurait pas dû perdre. Et donc le développement, c'est aussi une manière de faire cela. Et je pense, par exemple, ça peut expliquer pourquoi au Rwanda, très vite, on a eu une interdiction des sacs plastiques. A priori, c'est quand même quelque chose... Il n'y a plus de sacs plastiques au Rwanda, et c'est vrai que ça se voit, comparé à d'autres pays africains, on n'a pas des sacs plastiques qui traînent dans les arbres, etc. C'est une décision forte, qui peut être impopulaire, mais je pense qu'on peut l'expliquer par le fait, encore une fois, qu'on veut un Rwanda propre, un Rwanda présentable, et je pense que ça s'ancre, en fait, dans cette idéologie d'idéalisation de la terre rwandaise, qui, à mon avis, explique le développement, et qui explique un peu cette marche forcée, pour reprendre le titre de votre émission, parce qu'il faut que cela arrive vite, en effet, pour transformer les mentalités.
Anticolonial, anti-impérialiste, sur le plan économique, c'est quoi? C'est un parti extrêmement libéral. Quelle idée on se fait de la place de l'État dans la conduite des affaires économiques?
Je disais que aujourd'hui, en tout cas, c'est un parti avant tout pragmatique. Même si en effet, la place de l'État est très forte, parce que c'est vu comme un outil de transformation, mais on a un peu un mix, j'ai envie de dire, de politique plus libérale, avec un accent mis, par exemple, sur l'entrepreneuriat de la jeunesse. Et d'un autre côté, des politiques avec un grand rôle de l'État, par exemple le rôle de l'État clé pour l'industrialisation du pays, où on voit en fait que l'État a un grand rôle en fait d'accompagner les investissements et d'aider le secteur privé.
Jean-Paul Kimonio, comment est-ce que vous définiriez la politique économique du Rwanda? Est-ce qu'elle est libérale, dirigiste?
Je pense que c'est
un peu des deux.
Elle est mixte, à savoir très libérale sur certains points, mais aussi qui s'appuie aussi sur l'intervention de l'État sur d'autres points. Il faut voir que le Rwanda avait une base économique qui n'était pas viable. Et c'est une des raisons pour laquelle notamment le pays a sombré aussi profondément dans l'horreur. Les bases économiques du Rwanda ne sont pas viables, étant donné sa population, étant donné le manque de terres, étant donné l'épuisement des terres et le manque de développement de façon générale, qui était un peu la situation du pays historiquement. Et donc, pour relancer la machine économique, l'État a dû faire un effort très important. Donc, ça a intervenu de façon très forte. Même si, au début du processus de reconstruction, en fait, de façon idéologique, l'État a voulu se désengager et faire place au secteur privé. Mais il n'y avait pas de secteur privé. Et donc, après un certain nombre de tentatives où rien ne se passait, l'État a pris le devant pour s'occuper aussi d'économie.
On reviendra justement demain sur les questions économiques, ce sera vraiment notre sujet, donc ne nous attardons pas trop. La question ethnique, alors évidemment, aujourd'hui, et depuis en particulier la nouvelle constitution de 2003, on essaye de dépasser, bien sûr, ces clivages ethniques. Mais au début du projet politique du FPR, encore une fois, quelle conception, justement, avait-on du pouvoir? Et est-ce que on avait pensé une forme d'équilibre, de partage du pouvoir en fonction des ethnies? Ou est-ce qu'il y avait déjà cette idée de dépassement de l'ethnie?
Ah non, l'idée de dépassement commence dès les débuts. Dès le début, Chémouni nous a expliqué un petit peu l'importance de l'idéal du Rwanda antérieur. Et l'idéal du Rwanda antérieur, de la façon dont il est réinterprété aujourd'hui en tout cas, c'est fait largement abstraction des appartenances ethniques.
Et donc, mais aujourd'hui, pardon, le pouvoir rwandais, il est majoritairement composé de Tutsis.
d'abord, il faudrait savoir qu'est-ce qui est Tutsi, qui n'est pas Tutsi. Mais je pense qu'il faut aussi prendre en considération le processus des choses. À savoir, le FPR a pris le pouvoir. Le FPR était constitué de Tutsi, presque que de Tutsi. Et à ce moment-là, les élites Hutu s'étaient largement compromises dans le génocide. Donc ce processus-là ne peut pas être complètement dépassé en moins d'une génération. Mais maintenant, il faut voir aussi que le FPR, quand il est rentré au Rwanda, s'est renouvelé. Dans le FPR, aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup plus de Hutu que de Tutsi. Et donc, ce n'est pas clair que dans les différentes instances, il y ait plus de Hutu que de Tutsi. Bon, mais certainement, je pense que la place d'Hutu est encore prépondérante, mais ce n'est pas quelque chose qui choque, ce n'est pas quelque chose qui saute aux yeux, d'abord parce que les Rwandais, on ne peut pas nécessairement les reconnaître l'un de l'autre toujours. Mais d'autre part aussi, toute cette politique-là d'essayer de dépassement de l'identité ethnique hein, permet aussi aux acteurs aussi de jouer de cela, à savoir essayer de minimiser la question ethnique, se présenter comme un Rwandais, et finalement, ces questions ethniques deviennent plutôt de l'ordre de l'informel ou du privé plutôt que du public.
Benjamin Simoni.
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours eu dans l'FPR cette volonté de dépasser cela. Après, de quelle manière c'est actuellement le cas, c'est vrai que ça reste une question ouverte. Je pense que pour comprendre un peu la vision du FPR aujourd'hui sur l'ethnicité, je pense que par le développement, il y a une volonté de remplacer l'identité ethnique par une identité de classe, à travers le développement, à travers l'émergence d'une société plus différenciée. Je pense que c'est le grand pari du FPR. On arrivera à dépasser ces problèmes d'ethnicité, de conflit, si jamais les gens ne s'identifient plus par l'ethnicité, mais par la classe ou la volonté, voilà, l'ambition économique, etc. etc. Après, au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est le cas ? Malheureusement, je dirais non. Alors après, c'est peut-être, j'ai envie de dire, un peu normal, parce que le génocide, c'est seulement il y a 25 ans, une génération, et je pense que seulement le temps arrivera à dépasser ça. Mais on voit malgré tout dans l'État des dynamiques complètement informelles, mais où le leadership politique essaye quand même d'avoir des équilibres ethniques au sein des ministères, sans le dire, mais justement pour bien montrer qu'ils sont inclusifs. Alors oui, l'intention est là, c'est vrai que dans les faits, malgré tout, je pense qu'il y a quelques réflexes, mais peut-être qu'ils sont bienvenus, d'équilibrage, j'ai envie de dire, au sein de certains ministères. Alors, le haut du leadership est plutôt, en effet, dominé par des gens d'origine Tutsi. Par contre, par exemple, si on voit dans les campagnes les gouvernements locaux, là, en effet, il y a plutôt une majorité Hutu. Mais c'est vrai que, malgré tout, l'autorité politique est plutôt vue comme dominée par les Tutsi aujourd'hui. Le pari étant de pouvoir dépasser ça, oui.
Jean-Paul Kimonio, vous voulez réagir.
Oui, il faut aussi comprendre un petit peu ce qu'on entend par ethnicité au Rwanda. Hutu, Tutsi et toi partagent les mêmes langues, la même culture, les mêmes croyances et tout. Et en fait, c'est ça aussi qui a beaucoup aidé le FPR pour réunir le pays, c'est que il y a de profondes connivences entre ces différents groupes, qui est très différent de d'autres ethnies africaines, par exemple, qui n'ont pas les mêmes backgrounds culturels. Et donc, l'ethnicité au Rwanda est beaucoup une ethnicité politisée. Ça veut dire que si on travaille sur la dimension politique de l'ethnicité, la dimension culturelle et sociale diminue beaucoup plus facilement. Donc c'est vrai que le FPR a peut-être un certain nombre de mérites, mais il s'est aussi appuyé sur un certain nombre de structures sociales profondes, et notamment une profonde connivence culturelle entre ces différents groupes.
Quand il arrive, ce FPR, justement, au pouvoir après le génocide, quand il prend Kigali, évidemment, il ne reste quasiment plus rien de l'État rwandais, plus de soldats, plus d'administration, et donc le nouvel État rwandais va se construire assez largement autour de ce front patriotique rwandais qui va en être, au fond, la pierre angulaire. La question aussi qu'on n'a pas encore posée, qu'on n'a pas encore abordée, c'est celle du financement. Parce que pour qu'un parti se maintienne aussi longtemps comme il le fait, à la tête d'un État, il faut que le système de financement soit puissant, qu'il soit pérenne. Et surtout, il faut évidemment reconstruire un État dont les caisses sont particulièrement vides. De quoi est faite aujourd'hui la puissance économique et financière du FPR ? On parle beaucoup, Jean-Paul Kimonio, bien sûr, de ce fonds d'investissement qui s'appelle Crystal Ventures, qui a des activités à peu près dans tous les secteurs, le bâtiment, l'agroalimentaire, l'immobilier, etc., etc. On dit que c'est le premier employeur du pays, je crois que c'est plus tout à fait vrai, mais enfin, il est extrêmement puissant. C'est ça qui fait la puissance du FPR ?
Pas vraiment. Christian Venture a commencé, comme j'avais expliqué un petit peu, pour relancer un certain nombre de secteurs économiques qui étaient non existants. Un exemple particulier, c'est par exemple la téléphonie mobile qui arrivait au Rwanda en 97, qui était assez tôt par rapport à d'autres pays. Mais il n'y avait aucune entreprise ou aucun entrepreneur rwandais qui était capable de mettre l'argent et qui avait la volonté de prendre un tel risque. Crystal Venture l'a fait. Et dans différents domaines, Christian Venture a été plutôt un pionnier pour ouvrir et développer de nouveaux secteurs. Et ce qu'ils font de temps en temps, souvent, c'est que au bout d'un moment, quand le secteur devient relativement mûr, ils vendent leurs entreprises à des repreneurs, et notamment des repreneurs étrangers, parce que c'est parmi les rares entreprises qui ont une certaine taille dans le pays. Maintenant, il faut voir aussi qu'avec le temps, l'importance de Christian Venture a beaucoup diminué, parce que le secteur privé national s'est développé, d'une part, mais aussi il y a eu un certain nombre aussi d'investissements étrangers qui sont venus dans le pays. D'où vient le financement du Rwanda, parce qu'on dit du FPR, mais c'est plutôt du gouvernement rwandais qu'il faut parler.
Moi, j'ai dit... Façon,
du FPR.
Du FPR.
Ouais, 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 ah, ok, d'accord.
Je l'assume.
Ouais.
Non, mais on parle politique, donc...
Voilà, on parle politique, oui, d'accord. Le FPR a toujours une base assez disciplinée, qui contribue beaucoup aux caisses de mouvement. Il y a, bien sûr, ces entreprises-là aussi. Voilà, je dirais que c'est ça.
Quelque chose à ajouter, Benjamin Chimoni, sur cette question sur du financement du FPR.
Voilà, c'est vrai que le FPR...
Quel front patriotique rwandais ?
Le FPR, quelque part, a eu cette intelligence, en fait, vraiment d'avoir des sources de fonds, en fait, régulières à travers des entreprises assez productives. Et c'est vrai que ça a été une chance pour la trajectoire du Rwanda, d'une part, comme le disait Jean-Paul, puisque ça a été des groupes qui ont pu investir quand le secteur privé ne voulait pas y aller après le génocide. D'autre part, c'est aussi, à travers les dividendes, ça permet de financer la machine politique FPR, de financer les élections, c'est-à-dire que le FPR n'a pas cette incitation, comme d'autres partis dans la région, de recourir à la corruption, au clientélisme, puisque la source vient en effet d'entreprises de façon, j'ai envie de dire, légale, puisque ce sont des dividendes. Donc ça a été, quelque part, pour lutter contre la corruption, ça a été une chance, puisqu'il n'y avait pas besoin de recourir à la corruption pour financer la machine politique.
Indiquons pour nos auditeurs que le Rwanda fait partie des pays du continent où la corruption est la plus faible. Je n'ai plus le classement exact en tête. Oui, c'était 48e rang du classement de Transparency International sur la perception de la corruption, ce qui en fait, on regarde des autres pays du continent, plutôt un bon élève, voire un très bon élève.
Ah, mais il est second, je crois, depuis une dizaine d'années. Second parmi ceux qui combattent le plus la corruption.
En Afrique. J'avais lu troisième, mais si vous dites second, c'est vous qui avez raison. Second, troisième. Enfin. Est-ce qu'il y a eu une politique spécifique en matière de lutte contre la corruption, Jean-Paul Kimonio?
Il y a eu une politique extrêmement affirmée. Parce qu'avant de pouvoir relancer la machine économique, la première chose que le FPR a faite, c'était d'abord de travailler sur la question de la gouvernance du pays. Et effectivement, quand on voit un petit peu historiquement comment est-ce que les choses se sont passées, le développement économique est dû notamment à l'imposition ou alors l'installation d'une gouvernance extrêmement bonne, je dirais. Voilà. Donc... il faut voir aussi que quand on parle de développement, quand on parle de développement comme moyen de rétablir un petit peu l'unité nationale, il y a un autre élément qu'il faut aussi prendre en considération, c'est aussi l'équité. Parce que s'il y a un développement sans équité, on vous en est nulle part. Et en fait, ce que le FPR a fait, a commencé d'abord par mettre sur place les bases d'une équité étatique. Et c'est à partir de cette équité, parce que au début, dans cette proposition que faisait le FPR à la population, il n'y avait pas beaucoup de développement parce que le pays était encore assez pauvre, tout ça. Mais quand la population commençait à voir que malgré le peu de ressources et la pauvreté continuait, mais que cette pauvreté était gérée de façon équitable, c'est là où les populations commençaient à adhérer un petit peu au projet du FPR. Donc la question de la gouvernance et de la lutte contre la corruption est tout à fait centrale au projet du FPR.
Regardons justement comment on s'y est pris, les outils qu'on a mis en place pour développer, pour moderniser, puis peut-être qu'on pourrait donner quelques exemples. Mais il y a, Benjamin Chemouni, un point sur lequel je voudrais vous entendre, parce que le FPR a mis en place ce qu'on appelle les contrats de performance, IMI-IGO,
Kinyarwanda, c'est comme ça qu'on dit. De quoi est-ce qu'il s'agit? Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, puisque c'était quand même l'ambition de reconstruire le pays. C'est ça qu'il y a derrière. Expliquez-nous.
Tout à fait. Alors, les Imiigos, c'est des contrats de performance qui ont été mis en place en 2006. Ouais. D'abord avec les gouvernements locaux, les administrations territoriales, puis après avec le gouvernement central. Et c'est une liste, en fait, d'indicateurs de performance sur énormément d'aspects. Ça peut être le nombre de surfaces agricoles plantées, ça peut être le nombre de femmes qui ont accès à la contraception, ça peut être des indicateurs, par exemple, de mortalité maternelle, etc., etc., et qui sont signés entre les maires de district et le président. Et après, ça a été fait pareil sur les administrations centrales, les ministères. Et ça, c'est vrai que ça a été un grand moteur du développement, parce que ça a été vraiment la courroie de transmission entre le niveau central et le niveau local. Ces indicateurs de performance précis. On a aussi vu des dynamiques où les maires de districts qui n'arrivaient pas à les atteindre étaient remplacés par le pouvoir. Donc ça a été un grand moteur. Mais d'un autre côté, ça a aussi créé un ensemble de conséquences peut-être qui n'étaient pas intentionnelles, mais c'est vrai que...
C'est-à-dire ?
Il y a eu, par exemple, tout simplement, les politiciens locaux ont une tendance, en fait, de se focaliser très étroitement sur l'indicateur sans s'occuper, en fait, de comment cet indicateur pouvait être atteint. Je m'explique. Parfois, en fait, afin de se faire bien voir par le niveau central, des personnes ont pu avoir des approches assez sévères, assez dures envers la population, afin que cet indicateur soit atteint à tout prix. Mmh. Et c'est vrai que voilà, il y a eu ces problèmes. Le niveau central.
Quelle forme ça peut prendre là ? Parce que je comprends ce que vous dites, mais j'ai du mal à imaginer ce que ça peut être.
Alors, par exemple, on a vu ça dans les mutuelles de santé. Hein. Le Rwanda est le pays avec un taux d'adhésion à l'assurance maladie le plus haut du continent africain. Mais aussi, ceci a été fait parce que certains maires de district ont forcé les gens à adhérer à la mutuelle, par exemple en leur confisquant leur bétail, en les empêchant d'accéder au marché, voire même dans certains cas à l'église. Hein. Donc voilà, ça a été quand même des politiques assez, comme on dit, top-down, hein, par le haut, qui ont pu être assez dures aussi.
Ces contrats de performance, peut-être un commentaire Jean-Paul Kimonio, et ce que j'entends aussi dans ce que nous décrit Benjamin Chemouni, c'est que pour que ça fonctionne, il faut conférer aux maires, aux pouvoirs locaux, précisément du pouvoir. Donc ça veut dire que derrière, il y a une nécessaire décentralisation qui, par ailleurs, peut constituer une menace politique pour le pouvoir central. Alors comment est-ce qu'on fait pour gérer cette décentralisation qui est indispensable pour permettre ce développement sans que ça constitue une menace politique ?
La décentralisation, c'est plutôt une décentralisation plutôt technique, hein, technique et développementale. C'est moins une décentralisation politique. Mais je pense que Benjamin pourra en parler mieux parce qu'il a fait une étude particulière sur la décentralisation. Mais de façon générale, historiquement, les autorités locales au Rwanda ont beaucoup de pouvoir sur les populations. C'est un pays qui a été fortement administré depuis très longtemps. Et c'est un pays où les gens ont l'habitude de l'administration, et en fait, les gens aiment même l'administration. Il y a une anecdote, par exemple, quand les centaines de milliers de réfugiés ont été dans les camps de réfugiés, d'abord, ils sont partis selon l'organisation de leur administration, donc un chef de cellule s'occupait des gens de sa cellule, un chef de secteur s'occupait des gens de sa secteur, et ensuite, ils ont reproduit le système dans les camps. Donc, même en quittant le Rwanda, ils partent avec les structures du Rwanda. Donc le Rwanda est un pays assez particulier de ce point de vue-là. C'est quand même une vieille nation, c'est un pays ancien, et c'est un pays dans lequel la population a profondément intériorisé les structures de l'État. Mais ça aussi, ça porte quelquefois aussi des excès, hein, à savoir une espèce un contrôle social important, c'est vrai, mais un contrôle social souvent aussi qui est aussi alimenté par les populations elles-mêmes. Le Rwanda, c'est pas le Congo, c'est pas un endroit où, par exemple, les populations vont faire tout ce qu'ils peuvent pour échapper au contrôle de l'État. Non. Il y a une partie du comportement des Rwandais dans lequel les Rwandais eux-mêmes vont pousser à ce que, il y ait une espèce d'ordre dans la société. Mais je pense que c'est aussi dû à la structure de la société, à savoir un petit pays, très peuplé, avec peu de ressources. Toujours est-il pour dire que, quand même la relation top-down ou le contrôle de l'État central sur les instances locales est quand même très fort.
Peut-être encore un tout dernier mot, Benjamin Chimouni, avant qu'on retrouve un nouvel invité, et peut-être en particulier sur l'avenir du FPR. Il y a peut-être un moment où Paul Kagame quittera le pouvoir, ou peut-être même perdra-t-il une élection, sait-on jamais. Est-ce que le FPR peut survivre au départ de Paul Kagame ?
J'ai envie de dire, c'est vraiment la grande question qui, à mon avis, aidera à répondre si oui ou non le Rwanda a vraiment réussi cette ambition de se transformer et de dépasser en fait le génocide.
Et votre sentiment ?
C'est très dur. Malheureusement, je suis un peu moins optimiste que je n'étais avant parce que ce qu'on observe, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment le FPR, en tout cas, c'est mon impression, n'est pas aussi institutionnalisé qu'il l'était avant. Et j'ai un peu l'impression que le FPR devient de plus en plus Paul Kagame. Et que si, par exemple, demain, Paul Kagame avait, touchons du bois, j'espère pas ça pour lui, mais avait une crise cardiaque, est-ce que le parti serait en mesure de sélectionner un leader qui aurait la même légitimité ? Est-ce que le parti serait capable de discipliner certains de ses membres, notamment les militaires ? Aujourd'hui, Paul Kagame le fait parce que c'est un personnage historique qui a une grande légitimité. Mais est-ce que le FPR pourrait faire ça ? Et je pense que Kagame a quand même beaucoup mis de côté des gens historiques qui avaient avec une certaine légitimité. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'ils se trouvent un peu seuls dans cette machine. Donc, je ne suis pas totalement optimiste. Mais les signes ne sont pas clairs du tout.
Jean-Paul Kimonio, le FPR peut survivre à la fin de l'ère Kagame?
Je pense que oui.
Pourquoi?
Parce que les structures d'affaires sont profondes, et je pense qu'elles sont profondes notamment dans l'esprit d'un certain nombre de gens. Là maintenant, effectivement, on voit un certain affaiblissement du FPR, ou alors un manque d'affirmation du FPR, parce que le président prend beaucoup de place, mais s'il devait y avoir une crise, je pense que certaines choses réapparaîtraient. Et cela pour une raison particulière. On parle souvent du fait que le président Kagame a été aux affaires depuis presque 25 ans maintenant. Mais maintenant, on ne voit pas aussi les transformations qu'il y a eu dans le pays. À part le président Kagame.
On en a parlé.
Ah, non, mais d'autres transformations, oui, d'autres transformations. Mais une en particulier sur laquelle je voudrais mettre un peu l'accent, c'est le renouvellement des générations. Aujourd'hui, l'appareil d'État est entre les mains de gens qui ont moins de 45 ans. Et certains ont même moins de 30 ans. Beaucoup ont même moins de 30 ans et beaucoup de femmes. À savoir que les nouvelles générations sont elles, en fait, qui sont en charge. Donc, les gens se focalisent sur le FPR, mais sur le président Kagame, mais ne voient pas que, en dessous du président Kagame, en fait, le personnel politique et le personnel technocratique a totalement changé.
Un personnel politique, d'ailleurs, où les femmes sont très présentes, on ne l'a pas dit, on en parle très souvent, mais au Parlement, il y a 61%, je crois, de femmes, ce qui en fait le pays où il y a plus de femmes au Parlement. Et là, il est numéro 1 dans ce classement, j'en suis sûr. Continuons sur cette voie du développement, de la modernisation, et on va parler d'écotourisme. Quand on parle d'écotourisme du côté du Rwanda, on parle des gorilles, évidemment. Un récent recensement réalisé dans les parcs des Virunga fait état d'une population de gorilles qui a beaucoup augmenté. Et c'est évidemment une manne intéressante sur laquelle on peut développer une partie de l'économie. On va en parler tout de suite avec Damien Caillot, qui est primatologue et professeur à l'Université de Californie à Davis, qui travaille sur les gorilles du Congo et du Rwanda depuis 2012. D'abord, je vais commencer avec un fait politique. Juillet dernier, le président Kagame, toujours lui, se rend en visite dans les montagnes du Virunga pour rencontrer les gorilles. Il encourage l'augmentation de la population de gorilles. Il salue les efforts en matière de conservation. Et puis, il crée aussi la polémique parce que un certain nombre d'observateurs voient chez lui l'ambition de faire du parc du Virunga un territoire rwandais, alors qu'il se situe évidemment en RDC. Mais en fait, le président rwandais a bien parlé des montagnes du Virunga que se partagent le Rwanda, la RDC et l'Ouganda. Mais on voit bien que cette affaire, d'abord, elle montre combien les relations sont encore difficiles avec le voisin congolais, mais aussi combien cette question des grands singes, elle est éminemment politique. Le chef de l'État, Damien Caillot, s'y déplace pour mettre en avant sa politique en matière d'environnement, ses efforts en matière de développement. C'est une vitrine pour le pouvoir politique, Damien Caillot.
Le parc des Virunga, il se trouve, c'est une toute petite forêt en fait, hein. C'est un peu plus de 300 km², ce qui pour une forêt est vraiment une petite taille, mais il se trouve dans un endroit très très stratégique en Afrique, et pas seulement depuis ces dernières années, hein. Ça fait plusieurs siècles que c'est un endroit stratégique, c'est une zone extrêmement fertile avec des terres qui permettent de cultiver avec une production, un rendement très élevé. Donc de tout temps, il y a eu des mouvements migratoires de populations bantoues d'Afrique centrale et de populations aussi d'Afrique de l'Est qui sont convergés vers cette zone-là. Et il y a toujours eu beaucoup de conflits. Alors à l'heure actuelle, cette zone-là de montagnes et de forêts se trouve à cheval entre trois pays, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc de ce fait, se trouve une position extrêmement stratégique. Hein. L'Est du Congo est très riche en minerais. Le Rwanda en souhaite évidemment pouvoir en bénéficier en partie. L'Ouganda également souhaite bénéficier des ressources du Congo, notamment le charbon de bois qui sert de combustible. Donc pour toutes ces raisons, la zone de forêt qui est au milieu de tout ça se trouve vraiment au confluent des conflits, si je puis me permettre.
Alors parlons d'abord environnement. Ça fait très longtemps qu'il y a des programmes de protection des gorilles au Rwanda, déjà à l'époque coloniale. On avait créé un parc national en 1925, c'était le premier d'ailleurs d'Afrique. Et puis à l'indépendance du Congo belge en 1960, la partie qui est au Rwanda devient ce parc national des volcans. Mais si on regarde les choses depuis l'arrivée de Kagame au pouvoir, est-ce qu'on va avoir là une rupture en matière de politique de protection, une nouvelle manière au fond d'appréhender la gestion de ces espaces, de ces grands singes, de leur conservation?
Au niveau du Rwanda, le début des activités de protection des gorilles, de conservation, c'est vraiment les années 70. Jusque dans les années 60, le parc n'était pas vu comme une source de revenus potentiels, une source de développement économique. D'ailleurs, la zone de parc a été réduite de façon significative à la fin des années 60. En grande partie, presque la moitié a été supprimée pour pouvoir planter des cultures de pyrètre qui permettent de produire des insecticides. Dans les années 70, le parc a commencé à s'inquiéter de la présence de beaucoup de bétail à l'intérieur du parc qui nuisent au parc. Donc c'est la première vraiment mesure de protection qui a été mise en place avec un système d'amende qui a permis d'éradiquer complètement la présence de bétail dans le parc. Et début des années 80, c'était vraiment le grand tournant et le Rwanda a vraiment été un pionnier en la matière. C'est le développement de l'écotourisme centré autour des gorilles. Donc des groupes de gorilles ont commencé à être habitués à la présence humaine de façon à permettre à des touristes, principalement occidentaux, des touristes ayant des revenus, de voir ces animaux-là en payant une certaine somme d'argent. Et ça a commencé à générer des devises, un revenu d'origine étrangère pour le pays, qui n'a fait que croître en importance, avec évidemment le hiatus de la période des années 90 avec le génocide. Et puis après, ça a repris évidemment de façon très significative. Donc c'est vraiment une longue histoire de protection des gorilles dont fait partie maintenant Kagame et son gouvernement. Et Kagame a vraiment poussé cette activité-là à un niveau supérieur. Disons que le tourisme dans la plupart des autres pays alentour, le tourisme ciblé sur les grands singes, sur les gorilles et les chimpanzés, génère des petits revenus qui sont significatifs, mais à l'échelle locale. Le tourisme des gorilles au Rwanda, c'est un revenu bien supérieur, c'est un tourisme de luxe. Les gens payent plus de deux fois ce qu'ils paieraient pour voir des gorilles dans un autre pays. Il y a des loges extrêmement sophistiquées. Il y a un accueil également qui a été mis en place avec des gardes du parc très très bien formés qui font vraiment un excellent travail dans le parc pour protéger les animaux, pour fournir aux touristes une expérience exceptionnelle. Qui fait que maintenant les gorilles sont devenus une part importante de la politique du pays et non seulement ils génèrent des revenus de façon directe, mais en plus ils contribuent à l'image positive du pays que Kagame s'est vraiment efforcé à mettre en place. Évidemment, après le génocide de 1994, l'image du pays n'était pas très bonne à l'étranger. Et grâce en particulier aux gorilles et à d'autres activités de développement qu'il a mis en place, l'image s'est vraiment améliorée.
Oui, c'est vraiment un tourisme de luxe que vous le disiez. Pendant longtemps, ça coûtait d'aller observer les gorilles, ça coûtait $750. Et puis je crois que depuis deux ans, c'est encore plus, c'est le double, c'est $1,500 pour quelques minutes à peine passées avec les grands singes. La question qui se pose, Damien Caillot, c'est celle de ce que les populations locales peuvent au fond profiter de tout cela. Est-ce que les retombées économiques sont importantes pour toutes les populations qui vivent autour ou est-ce qu'au fond c'est assez limité?
Alors comme beaucoup de pays en développement rapide, le Rwanda est en train de passer par cette phase effectivement de développement économique, le développement ne bénéficie pas à tout le monde, il crée des inégalités, c'est vraiment une contrainte du système. Et alors ce qui se passe c'est que les populations qui vivent limitrophes, qui vivent en bordure du parc, sont très pauvres. Ce sont des cultivateurs, des petits éleveurs, mais vraiment pas des gens qui ont beaucoup de revenus. Et pour eux, le parc est une petite source de revenus. Pour certaines des populations les plus pauvres qui n'ont pas de terre, ils n'ont souvent d'autre choix que d'aller chasser dans le parc des animaux, pas des gorilles, d'autres animaux, pour se fournir en viande. Et le parc, évidemment, leur mène la guerre, entre guillemets, lutte contre ces activités qui sont illégales. Et ça entraîne des conflits. Alors une partie des efforts du parc pour réduire les conflits, c'est de donner un petit pourcentage des $1,500 dont vous parliez à ces populations locales ne peut pas les donner directement, hein, c'est réinvesti dans des activités qui sont censées bénéficier aux populations locales, mais c'est vraiment un tout petit pourcentage.
Mais quoi, on construit des écoles, on construit des dispensaires, des centres de santé, des centres de soins, des choses comme ça?
Voilà, exactement. Hein. Le gouvernement va investir dans des activités de ce type-là. Les effets sont limités parce que la présence humaine, les activités illégales d'origine humaine dans le parc sont à peu près stables, hein. Il n'y a pas vraiment de décroissance. Donc ça n'a qu'un effet limité. Alors après, c'est également une tâche très difficile.
Mais est-ce que ça apporte satisfaction? Je veux dire, est-ce que les personnes qui justement vivent dans cette zone un peu périphérique considèrent qu'effectivement il y a des efforts qui sont faits à leur égard, ou est-ce que on sent qu'on reste les oubliés et que finalement on ne tire pas réellement bénéfice de cette manne? Parce que vous le disiez, vous parliez par exemple de la culture. Évidemment, pour ces gens-là, le fait que ça soit un parc et donc protégé, ça veut dire que toutes ces surfaces-là ne peuvent pas être cultivées. Donc c'est quand même un manque à gagner qui est considérable. Donc comment est-ce qu'on pèse les choses finalement? Est-ce qu'on se dit à la fin, on est quand même gagnant et oui, le gouvernement s'occupe de nous, ou est-ce que il y a quand même beaucoup de revendications et de mécontentement à l'égard du gouvernement?
Les familles qui bénéficient du parc parce qu'ils ont des membres de leur famille qui sont employés dans le parc, qui peuvent travailler comme porteurs, etc., sont bien évidemment du côté du parc, hein. Les familles d'agriculteurs, en général, soit sont neutres, soit sont un peu opposées au parc à cause de la présence d'animaux qui parfois quittent le parc, viennent détruire la culture, etc. La majeure partie des gens sont relativement neutres. Ce qu'elles souhaitent, c'est leur propre développement économique. Après, il y a les plus pauvres des plus pauvres, eux sont vraiment très fortement opposés au parc dès l'instant où ils ont besoin de chasser pour se fournir en protéines. Donc ça dépend vraiment à qui vous parlez. Donc les gens qui souffrent de la présence du parc, entre guillemets, en souffrent vraiment beaucoup. D'un autre côté, s'il n'y avait pas le parc, il n'y aurait pas ces animaux à chasser. Donc c'est effectivement un problème compliqué.
Damien Caillot, peut-être encore un dernier mot. Vous êtes primatologue, vous êtes donc un scientifique. Ce parc, c'est évidemment celui où Diane Fossé a fait tant d'observations, et donc c'est aussi le théâtre d'importants travaux scientifiques. Est-ce que il est toujours un lieu privilégié pour les scientifiques? La recherche est toujours au cœur des missions du parc?
Oui, absolument. Hein. Le centre de recherche de Carré-Sauquet, hein, créé par Diane Fossé, existe toujours. Et il est plus grand qu'il n'a jamais été. Il y a plus de 100 staff, hein, qui travaillent dans le parc pour ce centre de recherche chaque jour, qui protègent une dizaine de groupes de gorilles et qui collectent des données scientifiques qui permettent toujours d'approfondir notre connaissance des gorilles et, à travers les gorilles, la connaissance des origines de l'homme, bien sûr. Hein.
Mais l'activité touristique ne prend pas le pas sur la science? Ça rapporte moins, la science?
Oui, la science rapporte beaucoup moins. Elle rapporte sur le long terme parce qu'elle permet aux gorilles de survivre, évidemment. Après, à court terme, effectivement, il y a des enjeux à mettre en avant. La première chose, c'est que les groupes de gorilles qui étaient juste auparavant réservés à la recherche, entre guillemets, hein, les groupes qui descendent des gorilles habitués par Diane Fossé elle-même, sont maintenant également utilisés pour le tourisme. Donc chaque jour, il y a des touristes qui vont voir les groupes qui auparavant étaient destinés à la recherche. Alors c'est un petit problème, évidemment. Les gorilles sont un petit peu dérangés par la présence d'humains. Donc moins il y a d'humains, mieux c'est pour eux. Ça nuit un peu aux activités de recherche. Alors bon, c'est quelque chose qui n'est pas majeur, mais c'est quand même un symptôme. L'autre chose, c'est le fait que les chercheurs souhaitent vraiment que le gouvernement rwandais pousse les touristes, en tout cas mettre en place une politique qui limite la transmission de maladies aux gorilles. C'est très important, les gorilles meurent chaque année de maladies transmises par les hommes, hein, maladies respiratoires principales, des pneumonies. Et pour réduire la transmission, on souhaiterait que les touristes portent des masques. Et le gouvernement rwandais, jusqu'à présent, s'est opposé à la mise en place d'une politique de port de masques, parce qu'ils ont peur que ça fasse peur, entre guillemets, aux touristes, et qu'ils préfèrent aller dans d'autres pays éventuellement. Alors que pourtant, les autres pays mettent en place des politiques similaires. Merci. Donc voilà, c'est deux petits symptômes. Ceci dit, le gouvernement et les chercheurs travaillent vraiment main dans la main, et les progrès, parfois plus lents qu'on souhaiterait, sont réels.
Merci beaucoup, Damien Caillot, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes primatologue et professeur à l'Université de Californie à Davis. Et puis un grand merci à nos deux invités qui nous ont éclairés aujourd'hui sur la politique rwandaise. Benjamin Chemouni, merci infiniment. Merci. Jean-Paul Kimonio également. Je rappelle que vous êtes politologue rwandais, conseiller spécial auprès de la présidence, et puis auteur de Rwanda demain, point d'exclamation, une longue marche vers la transformation, qui était paru chez Cartala. On continuera évidemment à parler du Rwanda demain. On parlera en particulier de la dimension économique. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, le clivage structurant la vie politique dans les démocraties occidentales n'opposerait plus la droite et la gauche, mais les partisans de la version libérale de la démocratie à ceux qui retiennent sa mouture illibérale.
Et puisque nous approchons des élections au Parlement européen, cette opposition recouperait l'antagonisme qui dresse face aux défenseurs de l'intégration européenne les diverses familles du souverainisme. À première vue, c'est le fond du message macronien face à cette échéance électorale. Le choix, nous répète le président de la République, est entre moi et Viktor Orban, entre moi et Matteo Salvini. Je suis le premier responsable politique à avoir fait refluer la vague populiste dans mon pays, je suis capable de la faire refluer également en Europe. Et la référence un peu facile aux années 30 et aux nouvelles menaces pesant sur nos démocraties a pour fonction de placer la lutte contre la démocratie illibérale sous l'invocation toujours gratifiante de la lutte antifasciste. En réalité, les choses sont plus compliquées. D'une part, parce que les tenants de la démocratie illibérale, à la différence des fascistes d'autrefois, nient résolument être engagés dans un combat contre la démocratie. Au contraire, ils prétendent la défendre, voire même la restaurer, puisqu'elle aurait été confisquée par des instances n'ayant pas de compte à rendre devant les peuples. D'autre part, parce qu'en introduisant dans le débat politique la notion nouvelle de souveraineté européenne, Macron reprend au bon un thème souverainiste en le transformant. Il n'est pas l'adversaire de la souveraineté populaire, il veut la partager entre un niveau purement national et puis l'échelon supérieur, celui d'un peuple européen en voie de constitution. Et ce faisant, il échappe au libéralisme. Car les libéraux, partisans déclarés de la souveraineté nationale, ils l'ont défendu les armes à la main lors du printemps des peuples en 1848, se sont toujours secrètement méfiés de la souveraineté populaire. Pour deux raisons, dont on oublie volontiers la seconde. D'abord, c'est la première, c'est vrai, parce qu'ils redoutent les enthousiasmes populaires, le fanatisme des foules, surtout lorsqu'ils sont attisés par des leaders charismatiques. Les totalitarismes du XXe siècle ont montré que ces craintes n'étaient pas infondées. D'où la persistante préférence des libéraux pour le suffrage censitaire et pour les modes de scrutin indirect, l'élection des responsables de l'action publique par des collèges d'électeurs, des assemblées de notables réputées raisonnables. En France, souvenons-nous que l'élection du président de la République par le peuple, voulue par le général de Gaulle en 1962, a été dénoncée comme populiste et bonapartiste par les libéraux de l'époque, qu'ils soient de droite ou de gauche.
Mais cette méfiance, Brice, envers la souveraineté populaire, elle est également dictée par un autre motif, lequel ?
Oui, je le disais, il y a un deuxième motif, c'est la crainte que l'autorité d'un gouvernement légitimé par la volonté du peuple ne se reconnaisse aucune limite. Benjamin Constant, l'un des plus fameux d'entre les libéraux, mettait en garde au début du XIXe siècle, je cite, « On semblait se dire que si la souveraineté des grands rois était si puissante, si terrible, la souveraineté d'un grand peuple devait être bien autre chose encore. » Alors pour parer au risque du despotisme populaire, dont la Révolution française avait donné une première version sous la Terreur, les libéraux réclamaient non seulement qu'on limite l'extension du pouvoir, mais qu'on respecte scrupuleusement sa division entre exécutif, législatif et judiciaire. Les pères fondateurs de la République des États-Unis, eux-mêmes libéraux, partageaient ces inquiétudes. James Madison, en particulier, insista pour éviter toute forme de démocratie plébiscitaire. D'où le fédéralisme, destiné bien sûr à affaiblir le pouvoir central de Washington sur le pays, la création de la Cour suprême et l'existence du Sénat, dont les membres, à l'origine, étaient élus par les parlements des États et non pas directement par les électeurs. Mais cette méfiance n'a plus lieu d'être, nous disent les défenseurs de la démocratie non libérale. Frank Furedi, un intéressant sociologue britannique né en Hongrie, résume assez bien leurs arguments dans un long essai publié dans The American Interest. Ce que les libéraux et progressistes reprochent aux populistes, écrit-il, c'est d'abord leur popularité. Et ils devraient plutôt s'interroger sur les causes de leur propre impopularité. En réalité, écrit Furedi, le discours antipopuliste comporte des dimensions cachées, à savoir une critique implicite de la souveraineté populaire et de la prise de décision démocratique, une extrême méfiance envers les opinions majoritaires, un élitisme qui, dans des cas extrêmes, n'hésite plus à apparaître comme tel. Et il cite un essai publié par James Straube dans Foreign Policy, un essai provocateur puisque son titre était, je le cite, « It's time for the elites to rise against the ignorant masses ». C'est le temps est venu pour les élites de se dresser contre les masses ignorantes. Et le combat politique de notre temps, écrit ce James Straube, qui est un politologue américain, n'oppose plus la droite et la gauche, mais je cite, « les saints d'esprit aux colériques stupides ». Les masses ignorantes, ajoute-t-il, doivent être rééduquées. Quel programme !
Merci beaucoup, vaste programme, comme disait l'autre. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Vague.